102.1.
Eh bien non, ce n'est pas Pascal CV qui est là, c'est Mathias Turcotte. Il est là cette semaine, il est là la semaine prochaine avec nous. Il est sur le beat de l'actualité municipale. J'adore, Mathias, que tu sois sur le beat de l'actualité municipale parce que c'est un palier de politique qui me passionne. C'est celle qui est proche des gens. C'est celle ce dont on se doit de parler. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, aux alentours de 12h45, je vais vous présenter une autre erreur de communication de Bruno Marchand dans le dossier du tramway. On veut couper 1500 arbres, mais il n'y a pas un citoyen qui le sait. Puis la caisse de dépôt du wow, aux citoyens, c'est pas prévu pour se faire tout de suite. Bruno Marchand, pourquoi veut-il aller aussi vite dans le dossier du tramway?
On accélère les choses, hein?
Ouais, pourquoi?
Fédéral dit que ça coûte 13 milliards.
Ah,
on n'a plus de financement.
Ça pourrait être une bonne raison pour que l'on puisse dire « Ah ah! Il y a trop de choses de fait! » On en parle tout à l'heure vers 12h45. J'ai des extraits d'une très belle conversation que j'ai eue avec Mathias Gagnon, qui est le président du comité de citoyens Montcalm, donc la place où les 1500 arbres vont être coupés sur René Lévesque. Vous allez voir, font des demandes à la ville, ils n'ont pas de retour.
Pourtant, il y a du monde à la ville qui sont attitrés spécialement pour communiquer avec les commerçants à propos des travaux du tramway et communiquer avec les citoyens à propos du tramway.
Exactement. T'as tout compris. Le maire Marchand, ici, sur nos ondes, avait dit « Transparence, je vous le jure! » Rien ne sera caché dans le dossier du tramway. Haha, 12h45, vous allez apprendre ça, qu'il y a encore des choses de cachées. 12h30 également, on va avoir... La députée Christine Normandin, leader parlementaire pour le Bloc québécois, parce qu'il faut absolument parler du CURAM, Mathias. On est rendu à 6,6 milliards pour un logiciel qui gère les pensions de vieillesse et là, qui va être censé gérer l'assurance-emploi. On n'est pas encore rendu là. Bref, c'est pire que ça clique.
Puis en plus, il fonctionne mal.
C'est ça. Donc, on va parler de ça à 12h30 parce qu'on va se préparer, parce que lundi prochain, studio ici vers 12h10, on va avoir Joël Lightbound qui va venir répondre à nos questions. Probablement, on va commencer avec le CURAM.
Probablement.
D'après moi, oui.
Selon moi, ça va faire plaisir à Antonine de commencer avec le CURAM.
Oui,
aussi.
Parce que c'est Antonine qui nous avait rapporté ceci mercredi en ondes, qui commençait à nous allumer là-dessus, là, à dire « Hey les boys, il y a de quoi qui se passe à Ottawa qui est un peu comme ça clique. » Évidemment, on parlait de ça clique aussi aujourd'hui avec l'excellent chroniqueur Lambert Drainville parce que c'est lundi que le commissaire Galland va rendre public, justement, son enquête qu'il a fait. Donc, qui va-t-il blâmer? 48 avis de blâme sur Carl Malenfant. Imagine, il devrait en rester 2-3 à la fin de tout ça. Alors, on va parler de ceci. Puis lundi, d'ailleurs, on va être vraiment en couverture en direct de la commission Galland parce qu'on va avoir l'analyse d'Antonine Iaccarini. La conférence de presse est à 11h30. Et en fin d'émission, on va avoir Moncef Déragie qui va être présent également. Le critique en matière de transformation numérique et leader parlementaire pour le Parti libéral du Québec devrait venir s'asseoir en studio avec nous si la conférence de M. Galland n'est pas trop longue. Donc, vous vous demandez pourquoi écouter Boulevard 101, vous vous demandez pourquoi écouter On en jase. Bien, c'est simple. C'est pour toutes ces raisons-là. On est les premiers sur l'actualité. Il n'y a pas de doute pour moi. Si vous écoutez un autre poste, là, ben, peut-être bien qu'il y a 45 minutes, une heure après que nous, on en ait parlé. Ah là, vous allez en entendre parler. C'est nous qui amène la nouvelle en premier. 418-971-1021 pour nous rejoindre. On est également disponible sur la web radio via le blvd.fm. Vous pouvez aller réécouter les meilleurs moments. La chronique de notre chum Lambert Drainville va être immédiatement mise sur le site web après l'émission. twitch.tv/blvd/fm, c'est pour venir nous voir en studio, commenter également via le chat. Abonnez-vous à notre page YouTube parce que justement, les caucus se retrouvent sur YouTube. La prestation de Lambert Drainville va se retrouver sur YouTube. Bref, vous pouvez réécouter les meilleurs moments. Puis en plus, en nous voyant, t'sais, on est trois beaux bonhommes quand même.
Mais oui, trois beaux gars.
Il faudra quand même que les femmes viennent.
Parle pour vous autres.
Ouais, OK, parfait.
Tu t'inclus pas là-dedans?
Ouais.
Non, je m'inclus pas là-dedans. Je laisse les gens à juger.
OK, parfait.
Mais ben, pour en juger, ça se passe sur Twitch.
Voilà.
Et voilà.
Allez nous dire votre opinion sur Twitch.
Yes. Avant qu'on saute à pieds joints dans la commission Galland, ce rapport qui va être distribué lundi. Mathias, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Je commence avec un événement qui s'est produit au tournoi Pee-Wee dans la journée d'hier. C'est un match entre une équipe du Kazakhstan et une équipe de Détroit durant lequel on a eu droit à une bagarre générale. On peut le dire comme ça. Là, c'est les 4-5 joueurs sur la glace qui se sont battus. Oui, oui. vous avez bien entendu, durant le tournoi Pee-wee.
Une bataille de Pee-wee.
Ouais, ben c'est ça. C'est jeune un peu là, pour se battre, on va être honnête. Puis j'ai parlé à Patrick Dome, justement, qui est directeur général du tournoi Pee-wee, puis qui m'a dit que ça fait qu'en 20 ans de présence en tant que DG, il a vu ça seulement trois fois. Donc, à la suite de la bagarre, bien sûr, on a dû sévir certains joueurs. C'est trois joueurs du Kazakhstan qui sont suspendus pour le restant du tournoi. Un joueur de l'équipe américaine de Détroit qui va être suspendu également du côté des deux équipes. On va toutefois pouvoir continuer notre tournoi par la suite sans ces joueurs-là, justement. Le maire Bruno Marchand, qui va mener une mission à Edmonton et Calgary du 16 au 20 mars prochain. Les principaux objectifs de ce déplacement, on dit du côté du cabinet du maire, c'est de s'enquérir d'exemples de gestion d'expansion de projets de transport structurant et d'échanger sur d'autres dossiers urbains. En gros, c'est surtout une mission pour voir justement comment ça se passe, ces projets de transport structurant, notamment pour le projet de tramway qui s'en vient à Québec du côté de Calgary puis Edmonton. Au total, c'est Bruno Marchand, trois membres de son cabinet et cinq autres personnes qui seront en déplacement du côté de l'Alberta. Au total, cette mission va coûter 28 800 $ à l'administration de la ville, soit une moyenne de 3 200 $ par personne pour ces neuf personnes qui s'y rendront. Et je termine avec une nouvelle qui est sortie puis qui m'a fait réagir, puis qui a fait réagir Jeff. On va en parler un peu plus tard dans le show. Mais c'est le taux de réussite des cégepiens à l'épreuve uniforme de français qui est en baisse depuis 5 ans. C'est ce que nous rapporte le journal ce matin. On est passé de 87,9% en 2019-2020 à seulement 82,9% pour l'année 2023-2029. Puis c'est vraiment une baisse constante chaque année, sauf 2020-2021 qui a comme eu une année un peu spéciale en raison de la COVID. Mais sinon, c'est une baisse de 1,5, 1 point de pourcentage à chaque année. Donc, c'est une tendance qui est quand même inquiétante au Québec actuellement.
J'ai vraiment un truc pour vous, les jeunes, qui avez de la difficulté avec la langue française, et c'est pas moi qui va vous le donner, c'est la ministre des Affaires municipales, ex-ministre des Transports, Geneviève Guilbeault. C'est d'utiliser constamment la même phrase.
De ça. Je me souviens pas, j'ai pas de souvenir, c'est un peu comme l'autre page, j'ai pas de souvenir spécifique, de conversation spécifique sur une page spécifique.
Deux fois, par exemple,
j'ai aucun
trois
souvenir,
fois,
j'ai pas
de
souvenir expérientiel dans ma mémoire. Je peux pas avoir de souvenir exact, j'ai pas de souvenir plus précis. En fait, j'ai pas de souvenir précis. Mon souvenir peut être inexact, j'ai pas le souvenir. J'ai pas de souvenir de quoi que ce soit, comme j'ai pas de souvenir précis. En tout cas, c'est le souvenir que j'ai pas de souvenir assez précis.
Ah, elle a un souvenir de pas avoir de souvenir.
J'ai pas abordé le sujet. J'ai pas souvenir de cet ordre.
Dans une dissertation, elle aurait perdu beaucoup de points pour souvenir dans cet extrait.
Pour la répétition, Lambert Drainville, comment ça va, mon ami?
Ça va bien, vous autres, les boys? Très content d'être en studio pour une troisième semaine d'affilée,
yes!
Quand même.
On est tellement content de te voir en studio. Tu comprendras, Lambert, que j'ai fait un lien entre la qualité de français de nos jeunes et celui de Geneviève Guilbeault, parce qu'on se souviendra de son passage à la commission Galant en septembre dernier, où elle avait à peu près souvenir de rien. Donc, ça nous amène à ce rapport qui va être déposé lundi. Ma première question, est-ce que Geneviève Guilbeault va recevoir des blâmes pour avoir, ça être souvenu de rien, mais surtout avoir usé de laxisme dans ce dossier-là?
Oui, possiblement, oui. Il va avoir une reproche faite au ministre. Voyons voir de quelle ampleur, au gouvernement plus généralement, voyons voir de quelle ampleur elle sera. Mais on s'entend que de ce à quoi on s'attend lundi prochain dans le rapport du juge Galant, c'est beaucoup plus la SAAQ et ses hauts dirigeants qui vont manger une sérieuse claque. On en a parlé un petit peu mercredi avec la présentation d'une heure et demie de Karl Malenfant qui, malgré qu'on lui reproche 48, elle, c'est comment
Attends une minute, on va écouter Karl Malenfant, ouais, des blancs, mais là, on va l'écouter à la commission Galant. Souviens-toi, il avait été étourdi.
Très. Je pense que je suis un peu étourdi. Là. Vous envoyez le 8 avril 2016 la soumission de Deloitte à votre adresse personnelle.
Ah.
Soumission de Deloitte qui est supposée être dans un bunker barré à clé.
Vous avez tout à fait raison.
Vous venez de me dire que vous n'avez pas eu accès
non.
à la soumission.
Puis, honnêtement, je suis moi-même, là. Je me souviens pas de ça. Mais je peux pas. Je peux pas...
Ouais, si je m'envoie une très grosse soumission comme ça là, pour l'analyser puis l'envoyer à mes petits amis de part de pyjama, Loulou, puis Mado, là, et normalement, j'ai des souvenirs. Hein?
Écoute-moi, je serais bien mal placé, Jeff, pour parler de souvenirs. Je suis quelqu'un qui a... N'importe qui me connaît d'un peu de près sait que je n'ai aucune mémoire. Alors, ça se peut dans la vie d'oublier les affaires. Le fameux dicton dit que la mémoire est une faculté qui oublie. Mais mettons que ça fait beaucoup de monde en pas beaucoup de temps qui ont oublié beaucoup d'affaires dans toute cette saga qu'aura été les témoignages devant le juge Galant. Et donc là, lundi, on s'attend effectivement à ce que ce soit Karl Malenfant qui mange une sérieuse claque et Nathalie Tremblay, PDG, ex-PDG, qui... Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'avec sa présentation d'une heure et demie, Karl Malenfant a dévoilé beaucoup d'informations qu'il lui a reçues en primeur, mais qui doivent être... partie, en fait, du rapport final. Alors, on a quand même appris que des fonctionnaires de la SAC auraient trompé sciemment le public. Alors, c'est certain que le gros de la faute sera sur leurs épaules à eux. Puis encore une fois, la question qui va demeurer lundi, ça va être de voir quelle part dans tout ça revient au ministre et revient au gouvernement. Il y aura une part, certainement. Quelle sera-t-elle? Je pense qu'elle demeurera quand même minoritaire par rapport à la façon dont se sont comportés les dirigeants de la SAC. Tu vois, on lit dans l'article de la presse, là, elle dépasse le comportement où une organisation embellit inconsciemment le portrait de ses projets afin de se présenter en public sous un jour favorable. La preuve révèle plutôt qu'elles sont le fruit d'une action consciente visant à masquer aux parlementaires, au gouvernement et donc à la population le coût total du programme CASA et les dépassements de coûts.
Oui, exactement. Puis d'ailleurs, rappelons-nous, là, tu sais, Karl Malenfant se présente dans des rencontres avec le chef de cabinet de François Bonnardel, qui était ministre à l'époque des Transports. Et là, il présente les napperons avec des indicateurs au vert. Puis Denis Marcellet, qui est le PDG, sait que c'est pas vrai, mais il parle pas.
Ouais, exact.
Fait que là, à un moment donné, tu sais, il va avoir du blâme mis sur le gouvernement parce que je pense qu'à un moment donné, on a sûrement fait trop confiance à la SAC.
Ouais.
Mais je suis d'accord avec toi, c'est la SAC en premier lieu qui n'a pas du tout fait son travail et même qui a essayé d'étouffer l'affaire au maximum. Là.
Exact. Et on reviendra un peu à la même, aux mêmes réflexions qu'on avait en marge des témoignages de la commission, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'assure d'avoir une plus grande imputabilité de nos hauts fonctionnaires, nos hauts dirigeants de l'État, tout ce qui touche le public, en allant de l'avant. Et ce sont, selon moi, les mêmes questions qui ressortiront du rapport présenté lundi. OK, voici le gros des responsables, les hauts fonctionnaires, les hauts dirigeants, PDG, SAQ, tout ça. Comment est-ce qu'on s'assure que ces gens-là sont plus responsables, sont plus redevables de leur travail pour la suite des choses? Je pense que ça va être la grande question. Puis je pense qu'au-delà du blâme puis de la responsabilité de tous et chacun, ce serait intéressant aussi de voir en parallèle s'il n'y aura pas des accusations.
C'est vrai.
Criminels qui vont être portés en fonction du rapport et de ce qu'on y lit. Mais oui, c'est ça. Je pense que la suite de la discussion va vraiment se faire au niveau de comment est-ce qu'on assure plus d'imputabilité chez nos hauts dirigeants. C'est inconcevable que tu en aies, comme on a vu, là, qui se trouvent une place à la SAQ, qui font un travail absolument terrible, qui se retrouvent une place quelques mois plus tard.
Denis Marcellet, pour exemple, s'est retrouvé une place comme PDG de l'Office de protection du consommateur. Ouais. Mais il a complètement foiré à ça.
Il a foiré tout ce qui touche le consommateur.
Moi, si je foire ici en onde, là, moi, tout ce qui touche le consommateur, en plus, ça n'a pas raison. Mon Dieu Seigneur, j'y avais même pas pensé.
Ouais.
Il nous a coûté 600 millions de plus aux consommateurs, mais on l'a nommé
la protection du consommateur.
OK, bonne celle-là, j'y avais jamais pensé.
C'est comme nommer un pyromane responsable du département de pompiers de ta ville.
Oui, c'est ça, exactement. Tu vas être responsable du département des incendies. Monsieur le pyromane, on pense que ça va venir diminuer les feux. Ça marche pas bien. Hey, le commissaire Denis Galant, on a appris à le connaître dans cette commission-là. On a appris à connaître son tempérament bouillant. On écoute d'ailleurs un extrait d'un passage très houleux de Jean-François Bertrand, l'avocat de Karl Malenfant à la commission Galant.
Vous ne pouvez pas intervenir.
Article 32, les droits fondamentaux.
Je vous demande de vous asseoir. Je vous demande de vous asseoir.
Mais ce n'est pas une question.
Je vous demande de vous asseoir.
Ben, je suis assis.
Vous continuez, vous répondez à la question et on arrête pour le dîner.
Donc, je n'ai pas le droit d'intervenir?
Est-ce que vous avez... Je déciderai si c'est de l'argumentation. Pour l'instant, je n'en vois pas. Votre client fait ça depuis trois jours de l'argumentation.
Est-ce qu'il va être assassin, tu penses? sur certaines personnes, parce que tu sais, là, quand Carl Malenfant a témoigné pendant 6 jours, on s'entend, il l'a emboîté pas à peu près, là. Puis tantôt, j'ai fait jouer justement l'extrait où, oups, c'est, ouais, je suis étourdi, tu sais.
Ouais.
Il s'était gardé un droit de réserve avec les politiciens. Je pense que c'était bien aussi parce que tu sais, veux pas, avec la fonction qu'ils ont, je crois que c'était bien d'agir en conséquence. Mais penses-tu qu'il va être assassin sur certaines personnes ou sur la SAC qui va se permettre d'être très critique?
Écoute, j'ai pas la réponse à ça, ben franchement, je l'ai pas lu. Mm-hmm. Si on se fait à son style en commission, il passera pas par 4 chemins. Moi, j'écoute ça, puis je me rappelle, j'ai en mémoire quand il a été nommé. Tu sais, il y avait des liens, je pense, dans
avec Sonia
Lebel, puis des gens ont remis en question son intégrité puis sa nomination.
Il a cassé ça vite, hein, avec la façon que je gérais ça.
Il a cassé ça vite.
On n'en parle plus de ces liens-là. Là.
Non, puis si, tu sais, si je suis, je vais dire aux gens qui sont à l'écoute, tu sais, la prochaine fois que tu as un cas de même, là, où ce que. Parce qu'il semble être un calcul politique, tu remets en question une nomination comme ça d'un gars qui a une feuille de route long comme le bras. Rappelons-nous la commission Galant. Tu sais, quand on entend les critiques là, de « maudit que ce gars-là, il est pas neutre », puis blablabla. Rappelons-nous Monsieur Galant, puis n'importe qui a pris une demi-journée pour écouter les témoignages durant plusieurs mois. C'était assez spectaculaire de le voir aller, puis j'ai hâte de voir si effectivement le rapport final sera aussi cinglant qu'il l'a été au courant de certains moments des témoignages. Mais je serais quand même un peu surpris. Là. Je pense que ça va être quelque chose de très square and sharp.
418-971-1021 pour interagir avec nous. Je veux savoir qui croyez-vous qui va être blâmé le plus, la CAQ ou la SAC. Donc écrivez-moi CAQ ou SAC au 418-971-1021. On est en discussion avec Lambert Drainville. Normalement, le vendredi, on fait une petite discussion Lambert Drainville, Farnell Morisset. Farnell avait un imprévu aujourd'hui, donc c'est pourquoi on est avec Lambert. Lambert, si on parle d'un jeu qui a très bien fait son travail, M. Denis Galant, avec la commission de la SAC. Oh my God, c'est tough pour le juge Fournier avec son rapport sur les libéraux.
Ouais. Ben, je sais pas si c'est tough. Je veux dire, le gars, il a fait un bon travail dans la mesure des outils puis des leviers qui étaient disponibles pour lui. Mais il a, c'est ça, il conclut qu'il ne peut confirmer ni infirmer l'existence de paiement en échange de vote. Ça fait référence évidemment à l'enquête qui avait déclenché spécifiquement au niveau des textos. Une forte probabilité que la portion du Brownies qui avait été insérée dans l'échange texto paru dans le Journal de Montréal soit en fait un montage de plusieurs messages mis ensemble. Et au niveau des prête-noms, les gens qui auraient prêté leur nom pour récolter des gains à la chefferie de Pablo, que rien n'indique là, qu'il s'agissait d'un système organisé ou connu du candidat et de son équipe, donc de Pablo et son équipe. Alors, Pablo aura partagé ce rapport-là et ses conclusions sur ses propres médias sociaux.
Oui, parce que là, évidemment, ben, ça fait plaisir à Pablo.
Ça fait plaisir à Pablo, mais en même temps, le juge Fournier qui fait le tour des médias en disant qu'il se décrit comme un chien de chasse édenté. Ouais, c'est sûr que là, un chien de chasse édenté. Moi, je suis pas un grand chasseur, là, puis j'ai pas de chien de chasse.
Ça va pas bien aller.
J'ai l'impression que si j'avais allé à la chasse, je me prendrais un chien qui a des dents.
Préférablement, mettons. Ouais, mais justement, là, est-ce que la stratégie du Parti libéral dans cette situation-là, il y a comme le juge qui dit, ouais, mon rapport, il est comme plus ou moins complet, puis j'avais pas ce qu'il fallait pour arriver avec des bonnes conclusions.
Ouais.
Le Parti libéral qui sort puis qui dit. Bon, on comprend pas pourquoi le juge dit ça. Nous autres, on trouve que c'est très fiable. C'est un peu bizarre, non?
Oui, c'est un peu bizarre. Puis j'essaierais pas de défendre le rapport si j'étais le Parti libéral.
Ouais, c'est ça. Marc Tanguay a fait une sortie boiteuse à cet effet-là. Là.
Ouais, moi, si j'étais le Parti libéral, que ce soit Marc Tanguay, que ce soit Pablo Rodriguez, que ce soit Charles Milliard, que ce soit quiconque, restez loin de ça. T'sais, laissez les rapports parler d'eux-mêmes, commentez-les quand ils sortent. Mais tu sais, en termes de rigueur, puis en termes de démarche, je pense qu'ils sont très, très mal placés pour donner des réponses, des commentaires par rapport à la rigueur ou à la. Tu sais, c'est ça.
Je suis tellement d'accord
avec
toi.
Fait que bref, je laisserai ça parler. Je laisserai le juge parler de lui-même. Puis s'il dit des affaires qui ne vous plaît pas, ben vous avez toujours l'option de rien dire et de rien commenter. Je pense que c'est mieux comme ça. Moi, ce qui m'a surpris dans son rapport, je l'ai consulté vite, là, c'est la capture d'écran officielle, celle de laquelle partaient les...
Ouais, les textos de Brownies, là.
ben, qui devait avoir des brownies selon le Journal de Montréal, mais qui, quand on regarde le rapport du juge, on ne trouve pas la mention brownies comme telle. On a plusieurs des messages qui sont équivalents, qui sont la même chose que ce qu'il y avait dans le journal, mais pas totalement. La partie brownies s'y retrouve pas. Puis tu as encore une fois les échanges, là, c'est entre deux. Puis là, on est dans le spectre des spéculations, je le mentionne, parce que je veux pas m'exposer à quoi que ce soit, mais entre deux femmes, visiblement, qui s'échangent des textos, puis toi, comment tu vas avec une autre grosse semaine? I'm fed up, donc je suis fâché, mais je suis contente que la Guilbeault est dans l'eau chaude. Oui, elle est stupide, elle. Oui, mais Legault l'adore. Yes, ton ami Robitaille, en passant, a fait l'entrevue. Il a passé proche de s'échapper que tu veux traverser avec nous. Oh, où l'as-tu entendu? Sur Cube, il a dit « Elle se place dans les rangs pour l'instant. » Oh, il ne faut évidemment pas que ça sorte, mais je m'entends bien avec lui. On n'a pas la confirmation de c'est qui ces deux personnes-là. Les rumeurs qui avaient circulé, c'est que c'était entre les deux députés de Laval, une du Parti libéral et une de la CAQ, Sonia Lacoyanne et Alice Abou-Khalil. Si j'étais député de la CAQ, disons ça comme ça, parce qu'encore une fois, on n'a pas le numéro de la... on n'a pas la confirmation que c'est elle, mais disons que tu lis ça, là, puis je vois mal. Là, ça peut être qui, vraiment, qui aurait échangé ce type de texto-là?
Ouais, j'ai la Guilbeault, je suis content qu'elle soit dans l'eau chaude. François la protège. Hey, Pablo, c'est mon espoir de m'en sortir. Mon espoir de m'en sortir pour être réélu, parce que la CAQ, à ce moment-là, selon Québec 125, est à zéro député. À un moment donné, il y a des liens à faire.
Il y a des liens, puis si t'es député de la CAQ, puis là, t'as des textos qui, en tout cas, laissent fortement présager que t'as quelqu'un à l'intérieur de la CAQ qui vend des cartes de membres pour le Parti libéral, alors, qui est député de la CAQ et qui parle à des journalistes de façon très rapprochée, comme quoi elle envisage la possibilité de traverser dans les rangs d'un autre parti politique. Hey, je serais hors de moi si j'étais un élu caquiste.
Mais pourquoi François Legault n'a pas réagi?
Parce qu'ils n'ont pas la confirmation.
OK.
Eux autres ne peuvent pas le faire.
Ouais,
le parti,
parce que là,
c'est pas possible de
la députée a dit « ce n'est pas moi ». Donc à partir de là, ben, tu n'as pas le choix de respecter sa parole, d'accepter sa parole?
Ben, c'est que t'as pas de preuve légale pour la sortir. Il faut que t'aies une base pour... je veux dire, si t'avais des élus, des députés qui mettaient beaucoup de pression sur le parti, possiblement que ce serait possible. Mais d'abord et avant tout, madame Alice Abou-Khalil, là, je m'excuse, là, n'importe qui a fait du sport, là, t'as quelqu'un dans ton équipe qui s'acoquine avec le clan adverse, là. Moi, ce serait dehors à grands coups de pied au cul. Là. Puis, ce serait... Puis c'est franchement gênant, bien honnêtement, de sa part à elle, d'être là, d'avoir fait campagne avec des collègues, de continuer à faire son travail de député.
Puis là,
sous
de voter pour
de
le prochain ou la prochaine, la prochaine chef. Là.
Ben oui, c'est ça. Une fille qu'on n'a jamais entendu parler d'elle. Ça non. fait depuis 2022 qu'elle est élue. J'ai jamais entendu son nom, sauf dans ce cas-là. Et là, elle vend des cartes de membres pour aider à faire élire un nouveau chef au Parti libéral, nouveau chef qui a battu le record du moins long règne de toute l'histoire du Parti libéral.
Exactement.
Fait que sa feuille de route à Mme Abou-Khalil n'est pas très glorieuse, non. Et même en matière d'aider l'autre parti à se choisir un chef, ben, elle a réussi à se rentrer le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Alors, je reviens à mon point, si j'étais un élu caquiste, je serais en beau... Et ça fait longtemps que ça doit être su à l'interne que c'est elle qui est derrière ces textos-là. Je sais pas comment je...
Je répète qu'il n'y a pas de confirmation officielle que c'est elle, juste pour être sûr que...
Mais tout porte à croire que c'est elle, et je comprends pas comment elle peut, avec toute impunité, se promener dans les couloirs, participer au caucus, écouter les discussions entre ses collègues, alors qu'on a de forts doutes qu'elle fornique avec le clan ennemi.
Puis la façon qu'elle parle, en plus, ça laisse entendre qu'elle est au pouvoir juste parce qu'elle veut être au pouvoir puis avoir une job. Là.
Ah oui,
là, ça aide à augmenter le cynisme en politique de ceux qui sont déjà.
Ouais.
Elle dit « Ah, c'est mon seul espoir d'être élu. » Ça n'a pas d'air d'une fille ben accrochée à des idéaux politiques puis à être là pour les bonnes raisons. Ça a l'air de plus être... Je veux être là pour être élu puis avoir un salaire à la fin de l'année.
Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. J'ai rien à rajouter. C'est sûr qu'en matière de cynisme politique, t'as pas pire que ça. T'as pas pire que ça. Puis envoie chier sa collègue, Mme Guilbeault, au passage. Écoute, en tout cas, moi, si j'étais élu de la CAQ, je serais complètement hors de moi.
Je termine, Lambert, ton excellente chronique avec le nouveau sondage à la chefferie de la CAQ. 64% Christine Fréchette, 19% Bernard Drainville. Comment tu analyses le tout?
Ben, c'est Mme Fréchette, c'est un sondage léger, là, c'est ça, commandé par l'équipe de Mme Fréchette. Et c'est ça, chez les sympathisants de la CAQ, elle prend 5 points chez les sympathisants de la CAQ. Important de le mentionner parce que c'est eux qui vont voter au final pour le prochain chef. Plus 5 % et Bernard Drainville, lui, qui recule de 3 % L'écart est maintenant
très élevé. Là.
Ouais. Était élevé et désormais très élevé. On parle de 64 versus 19. Chez tous les électeurs, donc pas seulement les sympathisants de la CAQ, vois-tu, là, c'est Bernard Drainville qui gagne 3 % et Mme Fréchette qui perd 1 % L'écart demeure quand même très, très considérable. À Québec, Bernard prend 3 points.
Mm-hmm.
Et Mme Fréchette prend seulement 1 point. Bref, la pente demeure extrêmement à pic pour M. Drainville, qui a, encore une fois, laissé savoir sur Twitter aujourd'hui que c'est quelque chose, au contraire, qui le motive et qu'il ne va pas lâcher. Pour Mme Fréchette, tout roule comme sur des roulettes, visiblement.
Exactement.
On la comprend d'être prudente depuis le début de la course quand tu es dans une situation aussi confortable. Tu veux prendre le moins de risques possible. Si on regarde peut-être les quelques rayons de lumière... Pour Bernard Drainville, ben c'est la première fois là, depuis qu'on a des chiffres en ce qui a trait à cette course-là qu'il y a des chiffres qui vont dans le bon sens. Si on veut regarder les rayons de lumière.
Chose intéressante, c'est qu'avec cette course-là, au moins, on déterre des enjeux à la CAQ. Puis c'est le fun.
Ben,
ça amène
J'avais une question pour toi avant qu'on se laisse.
Ah, ouais, donc.
Tu préfères-tu une situation course à la chefferie du style Parti libéral, si t'avais à choisir,
la CAQ 100 000 à l'heure.
Même avec tous les enjeux que ça crée, troisième lien, les enjeux internes.
Moi, je veux qu'on en parle, des enjeux. Je veux qu'on débatte, je veux qu'on ait des visions différentes. La dernière course au Parti libéral, je me suis endormi parce qu'ils disaient toutes la même chose. Puis ils amenaient tout Pablo au sommet de la montagne.
Mais c'est parce que t'as pas bien écouté quand c'est Mario Roy qui parlait.
Ouais, 0,8% des votes.
Hey, t'as-tu vu les chiffres sur l'argent?
Oui, c'est 3 contributions, 250 $, hein?
Hey, 3 contributions, 250
$. Non, exactement.
Sérieusement, c'est... T'as juste le goût d'aller donner un câlin.
Oui.
Puis tu dis, mon gars va faire autre chose. Non, mais tu te demandes, tu sais, parce que mine de rien, il a fait perdre un mois à Charles Milliard. Tu sais, ce niaisage-là, tu sais, Charles Milliard aurait pu être déjà nommé
déjà
depuis plusieurs semaines.
Puis justement, t'es lui être à l'avant-plan et se faire connaître, là, parce que je termine là-dessus, parce que Christine Normandin, leader de la Chambre au Bloc québécois, est en attente. Mais 64%, c'est toi qui m'envoyais ça, 64% des gens ne connaissent pas Charles Milliard. Fait qu'il y a toute qu'une pente à remonter pour le Parti libéral. On en parlera la semaine prochaine, justement, compte tenu qu'il sera élu chef par acclamation ce
dimanche. Le vote francophone! Ça revient toujours à ça avec le Parti libéral. Comment vont-ils reséduire le vote francophone? Et tu prendras bien le temps de saluer Christine Normandin de ma part, avec qui j'ai travaillé quand j'ai commencé en politique. Ben oui, quand j'ai commencé en politique.
Bien ce qu'on va faire. Check bien ça ce qu'on va faire. OK, t'es prêt?
Ben oui, je suis prêt.
OK, parfait.
À Boulevard 102.1, avec Jeff Fortin et Pascal Cévé. Jusqu'à 14h.